Bonjour à toutes et à tous, eh bien c'est l'heure de l'Opus Festival depuis l'hôtel Maréchal de Colmar, générique.
Opus Festival International de Musique de Colmar, hommage à Claudio Abbado, une émission d'Accent 4 avec le soutien du CICS d'Arpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.
Aujourd'hui, 10e et avant-dernier opus festival de Colmar, une émission d'Accent 4 enregistrée à l'hôtel Le Maréchal, comme vous le savez. Et en ce samedi 13 juillet, je reçois le trio Cantor, Shuichi Okada violon, Gauthier Broutin violoncelle et Jean-Paul Gasparian piano. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
À 12h30, vous étiez au Koïfus pour y interpréter Brahms, Rachmaninov et Babadjanian. On va revenir assez longuement sur son compositeur d'ailleurs. Puis à 18h15, à la chapelle Saint-Pierre, le grand chœur académique maître de chant choral de Moscou donnera un concert de page chorale de Tchernoskov. Il fallait bien que je me plante dans un nom. Tchernokov, Rachmaninov, Golanov, Schubert, Mozart et Bach. À 21h, Vladimir Spivakov et l'Orchestre National Philharmonique de Russie interpréteront la première symphonie de Gustav Mahler. Et en première partie, Alexandra Dogvan, jeune pianiste de 12 ans, jouera le 23e concerto pour piano en La majeure de Mozart. En voici un extrait sous les doigts d'un jeune pianiste âgé tout simplement de 72 ans, Rudolf Serkin, l'Orchestre Symphonique de Londres est placé sous la direction de Claudio Abbado, un enregistrement de l'année 82. un extrait du 21e concerto, l'Andante, non pas l'Adagio du 23e concerto pour piano de Mozart. C'est bien le 23e que jouera ce soir la jeune pianiste âgée de 12 ans. Ici, nous écoutions Rudolf Serkin, l'Orchestre Symphonique de Londres et Claudio Abbado. Quel rapport ont les jeunes musiciens que vous êtes avec ces grands maîtres de la musique classique? Or, Jean-Paul, vous êtes pianiste. Rudolf Serkin.
Oui, moi j'ai énormément écouté depuis mon plus jeune âge des pianistes du XXe siècle et du passé, à travers les disques qu'avaient mes parents, notamment les disques vinyles, et en particulier beaucoup d'artistes russes, que ce soit des chefs comme Mravinsky, Svetlanov, ou des violonistes, des violoncellistes, évidemment des pianistes, et donc... Ça fait vraiment partie de ma formation et de ma découverte du répertoire aussi. Et beaucoup des œuvres que je joue même sont associées d'abord à des versions que j'ai entendues, que ce soit Sofronitsky, Gilels, Richter évidemment, et Serkin aussi. Et pour ce qui est d'Abbado, il y a notamment un document qui m'a énormément marqué quand j'étais jeune, qui est le film des concertos qu'il a enregistré avec Paulini. Et notamment, il y a un deuxième de Brahms filmé à Vienne, je crois, qui m'a énormément marqué. Où Abbado dirige, ils sont très jeunes, ils avaient un rapport d'amitié très très fort, ils ont énormément joué ensemble. Et ça fait partie d'un DVD que j'ai depuis très longtemps et que je réécoute souvent.
Précisément, Paulini et Abbado, ce sont deux musiciens qui ont eu et qui ont beaucoup d'humanité, qui n'ont pas hésité à faire sortir la musique classique du cadre traditionnel de la salle de concert en allant dans les usines ou en prenant fait et cause pour les mouvements ouvriers, par exemple. Est-ce que c'est un engagement que l'artiste d'aujourd'hui doit avoir ou se doit d'avoir ? Jean-Paul.
Oui, c'est vrai, c'est une expérience d'ailleurs assez rare. Alors qu'il y a un contexte spécifique qui est celui des années 60 et 70 en Italie, et c'est vrai que Paulini en parle dans le documentaire de Mont-Saint-Jean qui est sorti il y a quelques années, où on voit même des documents, c'est le 4e ou le 5e concerto de Beethoven qui est filmé dans une usine, et une autre expérience aussi assez intéressante qui était les concerts, si je dis pas de bêtises, à la Scala de Milan pour étudiants et ouvriers aussi, qui ont été plusieurs épisodes. Comme vous savez, Abbado, en fait, c'était même une équipe à trois, puisqu'il y avait Luigi Nono aussi, qui était lui inscrit au Parti communiste italien, et qui a aussi beaucoup encouragé ce type d'initiative. Donc c'est lié à un contexte, mais on remarque que par la suite, c'est des expériences qui n'ont pas forcément... eu de continuité, et c'est sans doute à notre génération d'essayer de réactiver un peu cet engagement. Ouais.
Gauthier ?
Oui, c'est sûr que toujours avoir le concert au même endroit, dans les mêmes salles, c'est quelque chose c'est bien de remettre en cause, d'aller jouer dans des endroits les plus différents possibles et pour toucher le public le plus différent possible, de tous les milieux sociaux et de tous les âges, c'est le but. Donc évidemment que c'est à nous d'aller jouer dans des endroits les plus variés possibles.
Oui, ce que font d'ailleurs beaucoup de jeunes musiciens. La semaine dernière, je recevais le Quatuor Aquilon. Mmh. N'hésite pas à ces quatre jeunes filles, n'hésite pas à les jouer dans des prisons.
Les concerts de poche,
oui,
aussi.
Oui, les concerts de poche. Ça,
des belles initiatives.
Chuchi, ouais. Un avis ?
Non, mais moi j'essaye aussi, mais à mon échelle. Quoi. C'est-à-dire que, par exemple, je suis allé au concert de poche, où je fais beaucoup aussi de... Par exemple, l'été, pas mal d'ailleurs, je dirais, dans beaucoup d'endroits, des petits villages, tout ça. Et puis voilà, pour...
C'est qu'on fait on commence à avoir des gens de notre génération qui créent des festivals aussi, donc jouer dans des cadres où qu'on choisit nous-mêmes, et c'est pas fort, du coup c'est pas toujours dans des grandes salles de concert, ça peut être
dans une petite église, un petit village,
peu importe, enfin je veux dire, oui.
Le bonheur de faire de la musique.
Oui.
Voilà. Donc avec Jean-Paul, on parlait de Rudolf Serkin, de Claudio Abbado, mais vous deux, vous avez participé aux académies de CIJ Ozawa.
Oui.
Exactement, tous les deux, oui.
Oui.
Qu'est-ce qu'on doit recevoir énormément d'un personnage aussi important dans le monde de la musique. D'ailleurs, il y a aussi des vidéos, des DVD, oui. On le voit enseigner.
Exactement. Chichi, il a fait beaucoup plus... Plus de fois que moi. Oui. Et je pense qu'il y a un souvenir qu'on a tous, qui est présent sur le documentaire qui avait été réalisé par... quelle chaîne
Je ne sais plus.
Enfin, il y a un documentaire...
Sur CJ, on va voir, oui.
Et on voit une scène où... En fait, Seiji Ozawa ne peut pas faire une répétition de plus que un quart d'heure d'affilée. Après, il faut qu'il se repose. Et du coup, c'était très compact, très dense comme moment. Et on jouait en version orchestre à cordes le mouvement lent du dernier quatuor de Beethoven. Et on avait travaillé avant. Et quand il est arrivé, on a joué et on a juste joué. Et après, il est parti 5 minutes. Et personne n'a parlé, n'a dit un mot. Il y avait beaucoup avec des larmes.
C'était intense, hein. Ouais.
Et puis après, il a répété. Il a dit des images qui nous restent encore. C'était un grand souvenir, ça.
Quoi, par exemple, comme image?
Il demandait aux altos de jouer...
Cotton Sound.
The sound of your skin. I want the sound of your skin. Chose comme ça. Des images... Enfin, oui, parce que faire de la musique, c'est faire des... C'est d'écrire des émotions et des choses qui existent dans la vraie vie. Et lui, à sa place d'homme qui a vécu et qui est plus proche de la mort que...
Très malade.
Mais avec une sérénité incroyable. Et pour cette musique, c'était des, très très fort comme image et comme moment.
Parlons un peu du trio Cantor. Expliquez-moi le début de cette aventure.
Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans, si je ne dis pas de bêtises.
Un peu plus même. Parce qu'on a dû commencer à travailler ensemble en fin 2015.
Ça ne fait pas une éternité quand même.
Non, ça va 4 ans, oui, ça va 4 ans. Ouais.
Plus ou moins, oui. En fait, avec Slushy, on se connaît depuis très longtemps, parce qu'on était, on est exactement de la même génération, on était au même collège. Octave Gréard, au même lycée. Et on avait fait de la musique de chant même au collège, dans d'autres formations. Et donc c'est toi qui as eu l'idée à un moment de nous réunir.
Et Gauthier est arrivé.
J'ai fait le lien. Je connaissais du conservatoire et puis voilà. J'ai commencé cette aventure.
Donc, vous avez plusieurs professeurs, dont Claire Désert et le trio Vandereur. Hier, oui. Raphaël Pitou était à votre place. Jean-Paul, d'ailleurs, il parlait de l'excellence de ces jeunes élèves dans ces classes au conservatoire de Paris. Et il disait aussi une chose. Très pertinente, que vous avez contredit d'une certaine manière, Jean-Paul, parce qu'il me disait, ce que je regrette beaucoup, c'est, par exemple, je vais parler de Paul Tortelier. Les jeunes se demandent qui est Paul Tortelier. Vous avez cité Sofronitsky, vous avez cité Richter. Vous avez une culture...
Mais ça dépend, je pense, du contexte familial aussi, de la formation.
Oui, vous avez des parents musiciens, je crois. Ouais. Bon, alors à 12h30, vous avez interprété le premier trio de Brahms, opus 8, le premier trio de Rachmaninoff, le trio élégiaque, et le trio en fa dièse mineur d'Arnaud Babadjian. Et à ma grande honte, je l'ai bien prononcé ?
Presque.
Babadjian. Et à ma grande honte, j'avoue que j'ignorais l'existence de ce compositeur qui est né à Erevan en 1921 et qui est décédé à Moscou en 1983.
Absolument. Mais je pense que vous n'étiez pas le seul à ne pas connaître.
On ne connaissait pas nous-mêmes avant de commencer les répétitions.
On parle de cette pièce.
Oui, c'est un compositeur arménien qui a vécu beaucoup en Union soviétique aussi à Moscou. Donc au cours du XXe siècle et qui a donc moi j'avais déjà joué auparavant quelques-unes de ses pièces pour piano seul. Il a toute une série de pièces assez courtes. Il y a un cycle qui s'appelle les 6 tableaux. Il y a une œuvre que je trouve assez géniale qui s'appelle la sonate polyphonique en 3 mouvements, prélude, fugue et toccata. Il y a un concerto pour piano qui s'appelle la ballade héroïque que Gilels a joué. Et il a composé aussi à partir des années 50-60 et par la suite pas mal de chansons de variété aussi. Et il est aujourd'hui en Russie, en Arménie, malheureusement si on peut dire, essentiellement connu pour ça, même si les chansons sont très belles, mais du coup les gens ne connaissent pas forcément son œuvre
pour musique de chambre ou pour piano, alors qu'il y a aussi des pièces magnifiques. Et en particulier, je pense que le trio fait partie de ses plus grandes œuvres. Il était lui-même un pianiste extraordinaire. Il y a des documents qu'on peut très facilement trouver sur Internet, des émissions de télé soviétiques où il joue des préludes de Rachmaninov, par exemple, sur un piano blanc ou rouge, je ne sais plus. Il y a des documents aussi où il joue ses propres œuvres. Et il y a une version du trio qu'on a joué où il est lui-même au piano avec Oistrakh et Knouchevitsky. Voilà, le trio a été composé en 1953, il me semble. Et donc fa dièse mineur, ce qui n'est pas une tonalité très très répandue, et qui mélange un style d'écriture post-romantique avec des thèmes assez typiques de la musique arménienne.
Ouais, peut-être une écriture plus proche aussi de celle de Rachmaninov que de Shostakovich.
Oui, c'est pour ça qu'on a changé aussi. Ouais. De parce qu'on s'est dit que... on a joué le petit trio de Rachmaninov, le premier trio élégiaque, qui, au niveau esthétique, se combine beaucoup mieux avec Babadjanian.
Deux autres compositeurs. Ouais. Est-ce que Babadjanian était dans l'ombre de Shostakovich, comme Weinberg, par exemple, un compositeur qu'on redécouvre, qu'on découvre de plus en plus, c'est une musique absolument extraordinaire.
Ouais. Oui, Babadjanian est évidemment beaucoup moins connu, surtout en Occident, aujourd'hui. Mais cela dit, ses œuvres, on a pu remarquer tout à l'heure, par exemple, que beaucoup de... On a parlé ensuite avec des gens qui étaient dans le public, et beaucoup ont adoré ce trio.
Il a même dédicacé un disque.
Ouais, j'étais un peu gêné parce qu'il y avait notre ami disquaire qui avait apporté un enregistrement par un autre ensemble du trio de Babadjanian. Et beaucoup de personnes ont acheté ce disque et m'ont demandé de le dédicacer. C'était un peu absurde, mais...
Vous savez ce qu'il reste à faire.
Voilà. Mais donc, ce qui prouve en tout cas que le trio a beaucoup plu. Et ça me fait plaisir. Enfin, je trouve que c'est toujours bien de faire découvrir des œuvres que... dans le cas présent, même des compositeurs que personne ne connaît, et peut-être après les gens vont être curieux et aller chercher à écouter d'autres pièces de Babadjanian. Ouais.
Alors on va écouter un extrait de ce trio d'Arnaud Babadjanian, David Oistrakh, le violoncelliste,
Knouchevitsky, ouais.
Voilà, vous ferez mieux que moi, et le compositeur au piano.
Ouais. Thank you.
premier mouvement du trio pour piano, violon et violoncelle d'Arno Babadjanian par David Oistrakh, violoncelliste.
Knoshevitsky.
Voilà, et le compositeur au piano. Vous écoutez de quelle manière cette interprétation historique de ce trio, Jean-Paul ?
Bah, c'est un peu l'interprétation de référence, là, sans doute, vu, la... vu l'équipe, avec l'auteur au piano et puis les Oistrakh et Knoshevitsky qui sont parmi les plus grands violonistes et violoncellistes du XXe siècle. Donc voilà, à la fois on l'a beaucoup écouté, en même temps on a essayé quand même de, d'avoir c'est notre pas, vision singulière de l'œuvre. Mais voilà, ce qui est frappant, c'est la liberté de phrasé, de dynamique et de tempi qui est extrêmement fluide, extrêmement plastique. Et puis voilà, l'intensité expressive qu'ils arrivent à donner. Qui est...
Vous avez déjà eu l'occasion de collaborer avec des compositeurs vivants ?
Moi, oui. Enfin, ça m'est arrivé de jouer des œuvres de compositeurs vivants et de leur montrer, par exemple, avec Thierry Eskech. Quelques années, j'avais joué une œuvre de lui qui s'appelait « Jeu de double ». Et j'étais allé lui jouer. Alors j'ai un regret, c'est de ne pas avoir... parce que j'avais joué plusieurs œuvres de Pierre Boulez, en particulier Incise et la première sonate, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer avant son décès, malheureusement. Mais ouais, c'est toujours assez passionnant comme expérience.
Quel est le répertoire du trio Cantor ?
Ben, il est assez large. On a
on a beaucoup joué le trio de chaussons, il me semble.
Oui, c'était notre premier.
On a commencé par.
Non, mais je veux dire large au sens où on a fait des styles différents. On a fait les esprits. On avait fait le troisième de Brahms aussi.
On a fait le
grand Tchaïkovski.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai.
Donc plutôt du gros.
On avait fait un Haydn aussi.
On a fait un trio de Haydn, le 44, c'est ça,
Milleman. Je sais plus. Oui.
Donc le voilà, le Rachmaninov. On a fait un petit Courtag aussi.
Ouais. Donc de la musique classique à la musique contemporaine avec Courtag.
Oui, voilà. Ouais.
Dans votre parcours, j'ai remarqué votre extrême curiosité Tsuichi, puisque j'ai lu que vous étudiez la musique ancienne et le jeu sur instruments d'époque.
Ah, c'est pas toi.
Je pense que c'est une erreur. Enfin, c'est
Gauthier.
C'est plus moi.
C'est Gauthier.
C'est pas moi.
Exact, c'est Gauthier.
Mais je suis qui est tout aussi curieux.
Il est tout aussi curieux.
Hein.
Oui, donc oui, moi j'ai fait ça. Oui, depuis 2 ans, du coup, je travaille au conservatoire avec Christophe Coin et Bruno Coxet. C'est vous parliez de Raphaël Pidou qui a aussi travaillé avec Christophe Coin et j'étais dans la classe de Raphaël pendant 2 ans et je pense que c'est lui qui m'a un petit peu donné cette envie. D'explorer, c'est d'abord l'instrument que la matière sonore donne beaucoup de sensations que je trouvais pas forcément tout le temps sur métal, donc c'est quelque chose de passionnant, et découvrir tout le répertoire qui donne plein de qui permet de faire même plein de parallèles pour la musique ensuite, plus tardive. Et puis le plaisir de ce répertoire qui est magnifique aussi, que je connaissais pas avant.
La pratique de la musique ancienne sur instruments d'époque, ça vous aide à comprendre le répertoire qui vient après ?
Alors comprendre, ce serait peut-être prétentieux, mais en tout cas, ça donne on voit certains motifs qui existent depuis toujours et qu'on retrouve dans la musique de Beethoven, qui était, par exemple, qui admirait beaucoup Handel quand il a écrit ses derniers quatuors de Beethoven, ses derniers quatuors de Beethoven, oui. Quand on joue une ligne de basse, par exemple de la 4e symphonie de Brahms, on voit et qu'on a joué une cantate de Bach, on se rend compte que c'est très très semblable. Donc plein de choses qui font des liens. Après. On va pas jouer tout pareil, mais moi j'aime beaucoup voir ces parallèles. Et puis pour la technique instrumentale, sentir d'où viennent certaines choses, c'est très enrichissant.
Et vous, Tsuichi, vous vous intéressez à ce répertoire ?
Alors moins que Gauthier. Enfin, je joue par exemple beaucoup de Bach quand même. Mais c'est vrai que moi je joue toujours sur Modern Star, que c'est les cordes en métal, l'archet moderne. J'ai jamais essayer, peut-être qu'il serait... Mais pourquoi pas, bien sûr, je trouve ça intéressant aussi, comme disait Gauthier, pour la technique instrumentale, c'est vrai que le boyau, je trouve ça très différent, il me semble.
Oui.
Il faut vraiment essayer une prise de
prise de
parole,
son différente,
de son,
ouais.
Je pense que ce sera toujours enrichissant pour nous, sur l'instrument, enfin pour beaucoup de choses, je pense. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai jamais...
Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de rester sur le répertoire... baroque pour cette musique. Oui, on voit pas les signes sur le micro parce que on peut jouer. Enfin, on a commencé à vraiment utiliser des cordes en métal après la Première Guerre mondiale. Et donc avant, tout le répertoire d'avant marche très bien sur les instruments en cordes en boyau pour nous. Ouais.
Suichi, vous participez à l'aventure d'une intégrale de musique de chambre de Brahms,
exactement,
menée par Pierre Fouchandré et quelques autres chambristes. Et bien, on va vous écouter dans le Vivace Manon Tropo du quintet à cordes en sol majeur, opus 111.
Thank you.
Des applaudissements qui saluent l'interprétation du mouvement final du quintet à cordes en sol majeur opus 111 de Johannes Brahms avec Pierre Fouchandré, Suichi Okada, Lisberto, Adrien Boisseau et François Salk. Jean-Paul Gasparian, votre curiosité touche aussi d'autres domaines que la musique et vous vous intéressez en particulier à la philosophie. Je crois même que vous préparez un doctorat. Et au cinéma et à la littérature. Est-ce que cela, tout cela nourrit votre compréhension, votre approche de la musique?
Oui, sans doute, je suis pas le seul, il y a énormément de mes collègues qui ont d'autres centres d'intérêt que la musique, et heureusement, que ce soit la littérature, le cinéma, ou des disciplines plus scientifiques d'ailleurs, ou le sport, ou plein d'autres choses, et je pense que c'est assez essentiel d'une part, évidemment, de travailler avec le maximum de rigueur et de discipline et d'avoir l'investissement le plus total dans ce qu'on fait, mais d'avoir aussi une partie du temps consacré à autre chose. Pour autant que cette autre chose va en retour nourrir et enrichir notre travail et notre interprétation en tant que musicien, ça j'en suis convaincu, oui.
Autre point que j'ai remarqué dans votre... Mais c'est pas propre à vous, c'est propre aussi à des musiciens très curieux, c'est d'associer dans certains de vos programmes la musique contemporaine et la musique classique.
Ouais,
par exemple, vous avez cité tout à l'heure Pierre Boulez.
Oui, bah en proportion, la musique contemporaine occupe une place minoritaire dans mon activité, mais j'en joue de temps en temps et avec... grand plaisir, des styles assez différents. Par exemple, dernièrement, j'avais un programme à la Fondation Louis Vuitton à Paris où donc, toute la deuxième partie était Chopin et en première partie, c'était Debussy, Murail, Messiaen, avec donc deux regards de l'enfant Jésus de Messiaen et la Mandragore de Murail. Et donc j'avais associé ces trois compositeurs qui ont une filiation esthétique claire, évidente, puisque l'école spectrale fait référence évidemment à la fois à Messiaen et à Debussy. Et oui, bah, pareil, un peu ce qu'on disait au début pour Babadjanian et les réactions du public, ça m'est souvent arrivé, bah, quand j'avais joué Boulez, je me souviens d'un programme où il y avait Boulez, Beethoven, Schumann, je crois, où les gens m'avaient dit ensuite, oui, on croyait qu'on n'aimait pas, et puis en fait, le fait d'écouter avec la même attention qu'un répertoire classique ou romantique, ça oblige les gens à bah, écouter du... à écouter ça comme n'importe quelle autre œuvre et ne pas se dire que c'est de la musique étrange ou, ou je ne sais quoi. Et finalement, on voit que tout le monde peut être réceptif.
Donc il ne faut pas hésiter à programmer ces compositeurs contemporains et de les associer. On associe souvent d'ailleurs Schoenberg et Schubert et je trouve que ça fonctionne très bien.
Oui. Bah, en parlant de Paulini, lui adorait faire ça. Toute sa vie, il a fait des programmes. Moi-même, j'en ai entendu plusieurs à la Salle Pleyel à l'époque, Stockhausen, Beethoven, où bah, il faisait souvent, il jouait souvent Nono, en combinant avec Chopin, Schumann, et voilà.
Un de vos collègues fait ça assez souvent, c'est Bertrand Chamaillou.
Oui, absolument.
Et il compose aussi, ouais. Lui. Est-ce que vous composez un peu ou pas?
Non, c'est mon père qui a composé, moi, non. Enfin, un jour, je ne sais pas, mais pas pour l'instant, en tout cas.
Et quand on s'intéresse à la musique, au film, au cinéma, est-ce qu'on n'est pas tenté de s'intéresser à la musique de film et peut-être d'en composer aussi?
Bah, Gauthier trouvait que dans Babadjanian, il y avait des passages qui rappelaient la
musique. Tout à fait, ce qui est très juste.
Après, c'est difficile de dire la musique de film, parce qu'il y a des choses tellement différentes. Mais,
oui, il y a musique de film et musique de film, ça, on est d'accord.
Voilà, ouais, bah, je ne sais pas, hier, on parlait justement de Nino Rota. Ouais. Qui est un compositeur où la musique de film est très symphonique et il a composé aussi des œuvres, des concertos, des choses comme ça. Mais moi, je pense que la musique a une part très importante dans dans la manière dont les gens reçoivent émotionnellement le film et la trace que le film laisse ensuite dans la, dans la subjectivité. On associe très souvent des films à des musiques, quoi. Je sais pas si on va en particulier chez Kubrick ou chez d'autres, où vraiment on peut pas dissocier le
Visconti,
ou Visconti, on peut pas dissocier le film ou tous les westerns de Sergio Leone ou de, voilà.
Votre dernier disque qui est consacré à Chopin a été salué par la presse. Je vais citer une amie, Jenny Campella, qui a écrit « Le passage d'une ambiance à l'autre ne révèle aucun antagonisme ou effet facile, mais plutôt un naturel étonnant pour un pianiste aussi jeune qui sait intégrer la virtuosité à un discours d'une grande maturité. » Quoi de on rajoute rien.
Ah bah je vais pas commenter les.
Bon. Alors, le seul commentaire que l'on fera, c'est le nocturne en ré bémol majeur, opus 27, numéro 2 de Chopin, sous les doigts de Jean-Paul Gasparian, un disque du label Évidence. Thank you. Voilà, le nocturne en ré bémol majeur, opus 27, numéro 2 de Chopin, interprété par Jean-Paul Gasparian, un disque du label Évidence. Merci à vous trois d'être passés par ce micro d'Accent
Merci
4.
À vous. Merci à vous.
Quelques vacances après ce concert colmarien ?
Pas tout de suite.
Bon, alors bel été à vous. Merci à François d'avoir assuré la réalisation de cette émission. Et demain, mon invité pour la dernière sera Hubert Nice, directeur du Festival de musique de Colmar. Bon festival à toutes et à tous.
Opus, Festival international de musique de Colmar. Hommage à Claudio Abbado. Une émission d'Accent 4 avec le soutien du CIC Est, d'Arpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.